en économie financière. Donc, au point que l'économie financière serait une espèce de trahison du travail productif, donc des investissements créateurs d'emplois, et ainsi de suite. Sûrement, il n'est pas facile du point de vue anthropologique il est plus facile de continuer à critiquer la finance parce que du point de vue anthropologique, effectivement, on a affaire avec des barbares, on a affaire avec un milieu du point de vue culturel comme ça, vraiment dégoûtant. Moi, je connais plusieurs. Et donc, c'est difficile de mettre en discussion ce paradigme de la contraposition entre réel et financier. Mais je pense que les problèmes du rapport entre la finance et la soi-disant économie réelle sont vraiment à revoir. C'est-à-dire que moi, je vois... en tout cas, un problème de définition de ce qui est productif dans l'économie réelle. Dans le sens que il me semble que dans l'économie post-industrielle, il y a une productivité qui va bien au-delà des murs des entreprises, qui est une productivité lié au seul fait d'être vivant, au seul fait d'être vivant. Cela est assez facile à voir dans le biocapital, si vous voulez, dans toute la production de produits pharmaceutiques liés à la post-génomique. Mais je pense que au-delà du fait que la vie en soi, le génome est devenu productif de profit, je pense que et c'est un peu la ligne de pensée de Thorne et de Maurice, de vous tous, j'espère. En tout cas, il y a là une question de productivité, justement, qui fait que la finance, si vous voulez, est un aspect, c'est l'extension des dispositifs de captation du profit à la société. C'est ça pour moi là, ce qui est la financiarisation. L'extension des dispositifs de captation du profit, de la plus-value à la société dans son ensemble. Alors ça, bon, quand je l'ai dit, j'ai toujours dit, j'espère seulement de n'être pas trop contredit parce que ça devient difficile d'argumenter à fond. Mais je veux dire, je pense que c'est là la tendance sur laquelle il faut travailler. L'autre chose qui me porte à me détacher, à me séparer de la tradition de l'orthodoxie qui voit dans la finance cette perversion. Soyons clairs, que la finance soit perverse, c'est sûr, mais le profit industriel était pervers aussi, donc c'est pas question de dire que l'un est plus pervers que l'autre. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas une question de jugement moral qui est en jeu. C'est une question de construction de catégories d'interprétation. Et l'autre chose qui me porte à croire qu'on nous sommes vraiment au-delà de cette tradition critique de la finance est liée au fait que dans la financiarisation, avec toutes les crises, il y a une moyenne, je pense, de 3 ans d'une crise à l'autre depuis 1987, grosso modo, Donc il y a une instabilité phénoménale, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un aspect important dans cette financiarisation, c'est que elle a sûrement, au-delà d'être un moment de forte destruction de capital, mais elle a aussi c'est un levier de production du commun. Excusez-moi, mais je le dis d'une façon très vulgaire, mais je veux dire, pensez à la new economy, à l'abus de la new economy. Les investissements qui ont été faits, les surinvestissements qui ont été faits, dans la construction du network et des télécommunications. Hein. Cette suraccumulation est exactement l'explication, ce qui a permis à l'Inde de entrer à plein titre dans l'économie globale. C'est-à-dire qu'après la crise de la new economy, la chute des prix de ce réseau de télécommunications, vraiment comme la chute typique des crises de surproduction, a permis aux entreprises indiennes de la new economy, de l'high-tech, de acheter des morceaux entiers de cette infrastructure qui avait été produite dans la phase d'expansion de la new economy. D'un côté, si on regarde à la crise actuelle, à l'immobilier, là aussi on est confronté avec une forte expansion des infrastructures de l'habitation. La logique même de cette bulle de l'immobilier est une logique expansionniste. Il fallait attirer des pauvres dans le marché immobilier pour permettre à la finance de fonctionner. La finance pouvait fonctionner dans la mesure où l'attraction de couches, de groupes de population de plus en plus à la marche alimentait le marché immobilier en garantissant l'augmentation des prix de l'immobilier. C'est lorsque les prix de l'immobilier ont commencé à chuter que toute la boule a éclaté. Mais la logique était justement celle du schéma Ponzi, non, de la chaîne de Sant'Antonio. Il faut faire entrer des gens à la marge pour pouvoir garantir la continuité de cette chaîne. Hein. Donc, je sais très bien que je suis en train de parler d'une socialisation à l'envers, si vous voulez, en tout cas, à l'envers jusqu'à un certain moment. D'un côté, il y a tous les éléments justement du rôle du désir, du rôle des conventions collectives. Je pense qu'il est important aux États-Unis de souligner le rôle de la propriété d'une maisonnette. Peut-être que c'est très américain, mais je veux dire, en tout cas, c'est toujours dans l'ordre de conventions collectives, si vous voulez, qu'une crise de telle longueur, de telle dimension a pu se développer aux États-Unis. Mais au-delà de ça, il est indéniable qu'il y a là un mécanisme d'expansion induit par la financiarisation. Hein. Ce qui pose quelques problèmes, justement, si l'on tient compte de cette vision très rigide que nous avons héritée du passé. Disons que là, il y a au moins deux questions que je pense qu'il est utile de toucher, de discuter. L'une, c'est qu'il y a un mécanisme de déficit spending keynésien, mais privatisé. Disons que le désinvestissement étatique dans la création d'une demande ajoutée, d'une demande ajoutée nécessaire dans le Fordisme pour la croissance, la crise du welfare state dans sa fonction, si vous voulez, d'intervention d'État qui intervient dans le cycle économique, qui est naturellement explicable du point de vue de la crise de la social-démocratie traditionnelle, qui est explicable du point de vue de la globalisation, de la libéralisation, tout ce que vous voulez. En tout cas, cette absence d'une fonction, d'un rôle actif de l'État, sauf dans la dépense militaire, au moins aux États-Unis, mais pas dans l'investissement dans les biens publics, a été substitué par un déficit spending privatisé, finalement. Qu'est-ce que c'est l'augmentation des dettes privées, soit hypothécaires, soit de consommation, sinon le fait, la démonstration que le capital ne peut pas croître sans la création déficitaire de la demande. Pas d'histoire. Les salaires en soi, ce n'est pas question seulement de bas salaires. C'est question qu'à tous les niveaux des salaires, il faut créer une demande ajoutée. Le problème, c'est de voir à travers quel mécanisme. Alors, la crise de l'État-nation, la crise de l'État keynésien a été, moi je pense qu'on puisse le dire, a été d'une façon ou de l'autre substituée par ces mécanismes de privatisation de du déficit spending et donc de l'importante croissance de la dette privée par rapport aux revenus disponibles ou de la dette privée par rapport au PIB. C'est la première chose. Donc, privatisation du déficit spending d'un côté démonstration indirecte de l'importance de la création d'une demande adjunctive, additionnelle, qui, d'une certaine façon, dans la discontinuité historique, nous fait entrevoir aussi une continuité. Moi, sur ça, je suis un peu luxembourgien, dans le sens que je pense que la plus-value, si je peux ouvrir une petite parenthèse, la plus-value a besoin d'une demande créée au-delà du salaire, généré à l'intérieur du circuit économique. Et on a vu l'impérialisme, on a vu l'État social, et maintenant on voit le marché communiste, le marché social qui crée. Bon, excusez-moi, moi je dis ça, mais c'est un peu pour rire, mais pas trop. En tout cas, je ne sais pas, je ne connais pas les mots à la hauteur de ce que de ce que, qui pourrait être un aspect important. Il l'est pour moi, en tout cas dans ma façon de comprendre ce qu'est la communication aujourd'hui. De l'autre côté, évidemment, là, lorsqu'on dit rôle expansif de la finance avec tous les hauts et bas, on dit aussi et privatisation du déficit spending, on se pose la question de la propriété. Alors la propriété dans le cas de marché immobilier dès qu'il s'est pendant ces années là sûrement, on est passé d'une conception social de la propriété, le droit à la maison, le droit à avoir un toit,